reste, nous referons 93, et 92 et 93, n'est-ce pas? Nous aurons un Valmy, n'est-ce pas, qui va, dès que la patrie est en danger, ben, on y court par devoir et par honneur et par patriotisme. Bien. Les démocraties ont le droit de se défendre dans une, bien sûr, dans une politique qui voudra toujours à la fois la paix et l'équité, bien sûr. Et quand on est agressé, on se défend. Bon. Et une politique, et là je cite Jaurès, qui mêlera l'injonction nationale et le devoir d'humanité. Et la France a une situation privilégiée dans ça, parce que c'est la patrie des droits de l'homme, tout simplement. Et que la République française s'est toujours définie aussi dans une vocation universelle de défenseur de la liberté des peuples. Les choses sont, oui, tout ça est cohérent. Tout ça est cohérent, mais a échoué. Voilà. Alors, il ne s'est pas trompé, il n'a pas trahi, mais il a échoué. Voilà. Tout ce qu'on dit. Et il est très probable, vous savez que c'est quand même sur le cercueil de Jaurès que l'ensemble du mouvement ouvrier a apporté son adhésion à l'Union sacrée, hein, syndicaliste révolutionnaire y compris, bien sûr. Et vous savez comme moi que les préfets, le 2 août, n'ont pas eu à user du carnet B, hein, où on avait coché tous les mecs à coffrer tout de suite pour antécédents gravissimes, antipatriotiques ou autres. Hein. Voyez l'évolution de type comme Gustave Hervé, enfin. Ce gars qui, quelques années auparavant, mettait le drapeau tricolore sur le fumier et puis c'est dessus, enfin, des choses incroyables, qui devient un chantre extraordinaire de l'Union sacrée. Bon.
Alors, j'ai vu deux doigts.
Alors, juste un mot sur Payon, parce que c'est important. Payon est un de ceux, peut-être un peu avec moi, mais sur Jaurès, c'est la question religieuse. Payon va plus loin dans le raisonnement en disant il a inventé une religion du socialisme. C'est même le titre de son bouquin sur ça. Bon. Moi, je ne le crois pas, parce que c'est une question de génération aussi. Vous savez, moi, je suis venu à Jaurès très exactement en 59, jeune étudiant, UNEF, tout ce qu'on veut, guerre d'Algérie, opposition à la guerre d'Algérie, surtout menée par Guy Mollet, Robert Lacoste et Max Lejeune, très bien, et on sort un inédit de Jaurès, Michel Launay, un collègue, un littéraire d'ailleurs, ami, sort un inédit de Jaurès intitulé « La question religieuse et le socialisme ». Pour des gens comme moi, ça a été extrêmement, extrêmement important et décisif, enfin, n'est-ce pas, quand on se voulait à la fois, je ne sais pas, moi, utilisant des grands mots, chrétien et socialiste, bon, très bien, mais à l'heure du guidisme de Guy Mollet, n'est-ce pas, quelque part en Algérie. Hein. Alors là, cette espèce de texte de Jaurès a été, pour beaucoup de ma génération, extrêmement important. On vient de le découvrir, le redécouvrir, de le recompléter. Il était plus long que ce que Launay en a publié en 1959. Mais l'idée que, oui, dans le socialisme, il y aura toujours quelque chose de spirituel, quoi. Voilà. Alors on en pense ce qu'on veut, on en fait ce qu'on veut, mais c'est ainsi. Voilà. Et en tout cas, on a été nombreux à lire Jaurès aussi à travers ce prisme-là. Pour sortir, hein, et alors c'est au moment où la recherche sur Jaurès prenait son essor, n'est-ce pas, grâce à des très grands noms comme Madeleine Reberiou et quelques autres, n'est-ce pas, mais aussi avec des gens venus de d'autres horizons, un Jaurès des droits de l'homme, un Jaurès qui a un rapport particulier au marxisme, un Jaurès etc., etc., et qui comprend très, très vite la question coloniale, qui est les autres horizons qui s'ouvrent, autres que ceux de l'Europe. Ben, alors tout ça pour des gens de 20 ans, 1959, ce qui était mon cas, et qui allaient prendre le sac pour partir en Algérie, c'était, oui, c'était extrêmement important.
Ouais. Alors une question là-bas, puis une autre ici.
Dans Dans les derniers mots de votre conférence, il me paraît que Jaurès avait une idée du rôle de l'élu, de ses devoirs, d'une déontologie. Est-ce que c'était partagé par les élus de l'époque et qu'est-ce qu'on peut penser des hommes et femmes politiques actuels par rapport à cette idée de l'élu de Jaurès?
Moi, je vous laisse conclure sur ce point, sur le dernier point. Enfin, c'est un peu un petit fil rouge dans tout ce que j'ai dit, hein, c'est évident. Et ce texte de 88, là, est tout à fait c'est étonnant. Au fond, oui, il y a toujours cette idée que ça n'est pas séparable de, je dirais, d'une adhésion spirituelle et surtout d'une morale active. Hein. Et que si ça ne suit pas le cours des choses, le cours du parti, le cours de l'évolution de la démocratie radicale, eh bien là c'est très compliqué et que on n'y arrivera pas en croyant que les solutions sont blanches ou noires, si je puis dire, hein, ou que il y a qu'à faire la révolution, oui, d'accord. Mais qu'au fond, oui. L'esprit de, non pas de conciliation, mais l'esprit de concorde, l'esprit de réforme en continu, je crois que j'en ai dit un mot, l'idée que dans tout ça, il y a un outil nécessaire, c'est la République, hein, d'abord, hein, et que cette République, au fond, ne pourra être conservé que dans l'union, hein, ou dans une proposition d'union. Hein. Et que, pour tout dire, Jaurès ne pense pas que la lutte des classes est un moteur, est le seul moteur de l'histoire. Voilà. Voilà. Donc, alors, ce mélange, n'est-ce pas, dans toute sa conception du parti, sa conception de la révolution, sa conception de l'avenir, il ne sort pas de cette idée qu'il faut une unité à tout ça. Voilà. Et pas seulement aller à la rupture de type révolutionnaire, voilà, je crois. Bon. Et c'est bien cela qu'il soit tant reproché, et par les guédistes, au sein de la SFIO, et évidemment par le bolchevisme et les communistes majoritaires dans le parti français en 1920. Voilà. Et donc Blum, premier disciple, si je puis dire, par garder la vieille maison.
Dans votre propos, j'ai été très interpellée par votre intervention sur la spiritualité. Et bon, les deux dernières interventions m'ont mieux fait comprendre ce que vous avez dit. Mais vraiment, à un moment donné, j'ai pas saisi, si vous voulez. Vous avez parlé de Dieu, vous avez parlé.
C'est pas moi, c'est Jaurès.
Oui, Jaurès, pardon. Oui. Oui, vous avez remporté les propos de Jaurès, bien sûr. Mais j'avais pas saisi, si vous voulez, d'une manière aussi intense. Hein, cette spiritualité à laquelle Jaurès était finalement tout son être allé vers je crois comprendre que c'était un moteur, oui. Cette spiritualité de son action.
Oui, parce que c'est ce goût d'unité, n'est-ce pas, c'est cette passion unitaire.
Mais comment on l'explique? Comment ça te... C'est ben, lui-même.
Parce qu'on l'a redécouvert, parce qu'on a enfin lu Jaurès, c'est pas seulement en morceaux choisis à usage militant, si vous voulez que je vous dise, moi. Ou à usage partisan, pardon. Bon. Il y a tout dans Jaurès. Hein. Vous savez qu'on est même incapable de dire qu'on éditera un jour les œuvres complètes de Jaurès, parce que ça ferait long comme trois fois l'Estrade, n'est-ce pas, en volume bien serré. Je vous dis, il faisait un papier tous les jours, donc voilà. Vous voyez le moment, et puis peut-être. Non, mais c'est... ça a été. Un, ça n'a jamais été cette question de. Il y a un Jaurès métaphysicien. C'est même son métier. Vous voulez que je vous dise, moi. Il est prof de philo, et il fait ses thèses, une thèse de métaphysique. Il ne fait pas une thèse de psychologie, il ne fait pas une thèse de logique, il ne fait pas une thèse de morale, il fait une thèse de métaphysique. Bon, bon. Évidemment, le Jaurès politique n'a jamais désavoué ça. 1910, à la Chambre, à la Tribune, la question de Dieu ne me fait pas peur, fait le gars. En tendant sa main, là, comme il faisait toujours, elle ne me fait pas peur. Alors, il y a des passes d'armes avec Clémenceau amusantes, hein, vous le savez. Je sais plus quoi, grand débat 1906, oui. Mais Jaurès se lance à Clémenceau, mais dans tout ça, vous êtes peut-être le diable. Clémenceau répond, qu'en savez-vous? Extraordinaire, moi. Alors ça, on apprend pour ça dans les écoles du parti, je suis bien d'accord. On ne vous a jamais dit que Jaurès avait fait de la métaphysique, peut-être. Je ne dis pas que ça a été son seul but dans la vie, mais je dis que ça reste cohérent. Et pour lui, c'est la source de la cohérence, n'est-ce pas ? Bon. Il y a une réalité du monde sensible, d'abord. Et il n'y a pas d'unité du monde s'il n'y a pas une idée derrière qui est spirituelle et divine. Voilà. Tout. Bon. Henri Guillemin l'avait dit, il y a une arrière-pensée chez Jaurès. Il a fait un bouquin là, dans les années 60. Là. L'arrière-pensée de Jaurès. Bon. Alors je ne dis pas que c'est un calotin déguisé, je ne dis pas que c'est un métaphysicien honteux, je dis qu'il a toujours eu ça, c'est tout. Mais que ça explique beaucoup de choses sur son rapport aux êtres, d'abord. Hein. Sur l'idée que on est tous comptables et passibles de cette unité foncière qui arrivera un jour. D'où la réforme en continu. D'où jamais le prolétariat tout seul n'y arrivera. Il faudrait bien qu'il y ait des peuples entiers, qu'il y ait des bourgeois, qu'il y ait, etc., etc., qu'il y ait des intellectuels. Non, vous voulez. Et puis l'idée qu'il faut enraciner tout ça, hein. Jaurès n'a pas eu le temps parce qu'il avait mille autres choses à faire, et d'abord en termes d'international où Dieu sait qu'il a fait railler, hein. Mais Jaurès n'a pas eu le temps de, non pas théoriser, mais d'accompagner comme il fallait les premiers progrès, les premières floraisons du socialisme municipal, par exemple, parce que c'était tenu par les guédistes, hein. C'est les guédistes qui ont commencé à prendre les mairies et à les faire fonctionner utilement, ou plus fortement en faveur des plus démunis, des plus ouvriers ou des plus pauvres, enfin comme on veut. Bon. Mais en tout cas, Jaurès a été toujours très sensible entre, je dirais, l'espèce d'unité entre les êtres, entre la réalité et le monde tel qu'il apparaît, hein, et la réalité du monde qu'on veut construire. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est assez original, je dirais, dans l'ensemble des pensées socialistes, n'est-ce pas ? Mais avec la faille que, à mon sens, Peggy a bien dit, n'est-ce pas, c'est le rien. Du coup, rien ne peut faire de mal, puisque on est sûr que l'unité, puisqu'elle est à l'origine, l'unité, elle sera au bout, n'est-ce pas, elle sera à l'autre extrémité. Or, quelque chose détraque tout ça. C'est le mal chronique et la violence gratuite dans le cours de l'humanité. Voilà. Excusez-moi pour les bruitages, mais c'est la fatigue à ce temps-ci.
Merci. Oui, ce que vous venez de dire, est-ce que c'est pas le fait, est-ce que ça pourrait pas poser une question sur le fait que Jaurès serait dans l'utopie, par exemple, dans une forme d'utopie? Et pour rebondir ce qui a été dit tout à l'heure, aujourd'hui, les socialistes qui parlent de Jaurès, le premier d'entre eux opposait Jaurès à Clémenceau, en préférant Clémenceau qui, lui, aurait accepté de se compromettre dans l'action politique en étant élu et en étant en responsabilité, contrairement à Jaurès. Est-ce que Jaurès n'est pas un tenant plutôt de l'utopie face au pragmatisme?
Non, parce que Clémenceau, c'est pas le pragmatisme. C'est l'autorité, c'est l'exercice de l'autorité. C'est le plein exercice du pouvoir. Voilà. Et y compris du pouvoir d'État. Le tigre est aussi le briseur de grève. Bon, voilà. Quoi qu'on nous chante aujourd'hui, n'est-ce pas ? Non. Et Jaurès n'est pas un utopiste. Je dis qu'il est métaphysicien parce que son raisonnement est toujours accroché à la réalité du monde sensible, n'est-ce pas ? Alors bien sûr, il rêve d'un socialisme où il y aura toutes les fleurs du hasard, comme il dit, bien sûr. Il y a des fleurs du hasard, bien sûr, mais on ne le fera que si on part de la réalité humaine, n'est-ce pas ? Qui peut être contradictoire, n'est jamais purement matérielle, est toujours matérielle et spirituelle. Ce qui fait que la querelle avec Peggy, aujourd'hui, nous paraît tout à fait... Vous savez, Peggy l'accuse, écoutez, c'est une dérégation monstrueuse que vous faites en adhérant au bloc des gauches, d'abord, et puis après, en soutenant le petit père Combe, etc., etc., où vous faites dévoyer la mystique en politique. Jaurès est bien conscient qu'il y a au fond peut-être non pas les deux pôles, mais que les deux choses sont intimement mêlées. Mais il part toujours non pas de l'utopie, il ne construit pas un monde abstrait. Il part toujours de la réalité du monde sensible, et pas la réalité d'un monde qui serait exclusivement livré à des lois et à des forces, n'est-ce pas, d'ordre contingent, n'est-ce pas, d'ordre économique et même peut-être social. Rappelez-vous, il parle d'âme aux élèves, enfin. C'est pour leur parler de morale laïque, bien sûr, mais pour leur parler de morale tout court, mais ils ne pensent pas qu'on arrive à la morale comme ça, apparemment. Il est de ceux qui ne craignent pas de parler de l'âme des peuples, voire de l'âme de la France. D'autres questions peut-être ? Et
je vais en poser une, puisque j'ai mon propos. En vous écoutant parler de la spiritualité de Jaurès, que je connaissais depuis un moment, mais qui effectivement refait surface et c'est très bien, je songeais à presque un contemporain de Jaurès qui s'appelle Élisée Reclus, et qui a, à mon avis, le même type de position chez les anarchistes.
Oui.
Au Reclus, le prologue de L'homme et la terre est un pur moment d'optimisme et de foi dans l'homme.
Oui.
Alors là, chez Reclus, il a décidé un jour qu'il était athée en remontant le Mississippi à un certain moment de sa jeunesse. Mais c'est frappant, or Reclus est anarchiste, c'est-à-dire que lui, il a poussé la défiance de l'État. Alors est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y aurait il y aurait une bipolarisation chez ces hommes de gauche entre ceux qui, comme disait Aragon, qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas.
Oui. Pour le moment, Jaurès peut parfaitement adhérer à un argumentaire d'ordre libertaire. À condition d'en discuter et de traduire ça politiquement. Il n'entrera jamais parce qu'il est l'homme de son temps, il est l'homme du temps des attentats anarchistes. Jamais il ne discutera de l'idéal libertaire en concédant quelque autorité que ce soit aux bombes dans les bistrots. Ça est clair, simple et net, parce que ça... Oui, Mais jamais il n'a, y compris dans l'humanité, refusé aux libertaires qui étaient passés, je dirais, à une action sociale à travers le syndicalisme révolutionnaire, jamais il ne leur a fermé la porte de l'humanité. Alors que toute la presse du parti était freinée au cas de fer, hein. Ou ne disait rien. Non, il y a toujours eu l'espace pour eux. Bon. Et au fond, oui, Jaurès a toujours pensé qu'il fallait tenter d'exalter la pleine liberté, bon, voir les fleurs du hasard, mais à condition qu'elles ne soient pas accompagnées d'actions de ce genre. Parce qu'il croit, il ne pense pas que la révolution se fera sans évolution de la démocratie parlementaire. Hein. Il ne faut pas non plus trop en rajouter. Hein. Il est trop républicain et puis trop de sa génération pour imaginer qu'il ne puisse pas y avoir par vocation française, il dirait même par vocation nationale, ça ne le gêne pas, à rester les descendants de 92 et 93. Bon. Alors, c'est pas nécessairement un atout pour ce pauvre pays, je n'en sais rien, c'est à chacun d'en juger. Mais pour eux, c'est tout à fait fondamental. Enfin, la singularité française, c'est que quoi qu'il arrive, on a fait la révolution. Bon, voilà. Et qu'on a inventé les droits de l'homme. Même si d'autres, les Anglais ou les Américains, ont inventé à partir du droit de l'homme et à partir de l'habeas corpus ou de la déclaration des droits, d'autres formes peut-être meilleures de démocratie. Nous, on a inventé la déclaration des droits de l'homme, pour des raisons X, Y et Z, et qui ne sont pas toutes économiques, mais qui sont d'abord de lumière. On les a inventées et on les a appliquées à un projet d'abord républicain. Alors c'est peut-être trop court comme raisonnement aujourd'hui, je n'en sais rien, mais c'est ainsi qu'ils ont bâti leur argumentaire. Et vous en avez, tu sais, combien de traces dans notre vie politique aujourd'hui, bien sûr. Même si les discours de Carmo ne sont pas toujours bien accueillis. Mais il y a toujours, et chez le président Hollande, c'est tout à fait frappant, toute évocation de Jaurès débouche sur un appel à l'unité. Et en soi, c'est parfait, c'est très bien. Le problème de Jaurès, c'est après que Jaurès, grand homme de l'unité, bon, il y a toujours derrière le jeune Jaurès, ou alors si on veut le Jaurès plus inquiet spirituellement ou plus métaphysicien qu'on le dit, il y a le Jaurès qui dit ce que je vous ai lu, n'est-ce pas, et qui le dit tout de suite, n'est-ce pas. La démocratie, là, le peuple nous demande des résultats. Alors qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de résultats et qu'en plus il y a peut-être un peu moins de morale qu'on pouvait l'imaginer? Moi, je sais pas, mais c'est vous qui savez.
C'est un peu dans ce sens-là.
Oui, madame, oui.
Moi, j'ai pas étudié Jaurès, enfin, j'ai aucune culture historique, ni politique.
On dit ça.
Oui. Dans ce que vous avez dit, j'ai l'impression que Jaurès était un homme qui était proche des gens. Et. Maintenant, on a l'impression que les politiques sont dans leur bulle. Voilà. Et pourtant, on nous en ressasse du Jaurès en ce moment. Moi, j'ai l'impression d'une belle contradiction.
No comment.
Alors ça, c'est bien, c'est une question-réponse courte.
Ah oui. Allez, le retour, cher président. Oui. Voilà.
Bon. Vous avez épuisé votre sac de questions. Alors, je voudrais d'abord remercier évidemment du fond du cœur, pour ne pas dire de l'âme, Jean-Pierre Rioux.
Oui, le cœur suffira. Le cœur.
Retrouvez Eau de Radio en ligne sur eauderadio.net. Eau de Radio, la radio des Hautes-Garonne.
La 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 yes, it's a budget fancy. It's a budget. Yes, 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 it's a budget fancy. Jack. Dabe
n'entend pas. On n'entend pas.
Sourire, gagner des clients, gagner des étoiles ou remporter le bouquet d'or, à chaque cuisinier de mettre son envie et son ambition au service de la cuisine.
Pour chacun d'eux, chaque journée est consacrée à s'organiser en brigade ou organiser tout simplement la cuisine. Rien n'est laissé au hasard lors du concours du Bocuse d'Or. Le soutien des proches vous mobilise à aller encore plus loin comme le sportif de haut niveau. Certains rêvent depuis leur début en cuisine et d'autres sont là pour rêver avec eux de cette manifestation hors norme. D'autres se mettent en recherche de reconnaissance du geste de la perfection professionnelle par les pairs en passant l'épreuve du meilleur ouvrier de France. D'autres encore ne cherchent qu'à recevoir le plaisir d'une assiette vide et le sourire des clients. Chaque chef a un rôle dans la transmission du goût, du bon et du savoir. La cuisine n'est alors que l'accumulation d'expériences inoubliables, le produit naturellement délicat fait alors naître l'émotion et la gastronomie rime avec délicatesse. Pour nous accompagner aujourd'hui, nos invités, honneur aux dames, j'ai le plaisir de recevoir Lucia Escosamia.
Non, pas du tout, c'est assez.
La fée des vestes des chefs de cuisine. Nous allons avoir aussi les chefs comme Eric Fagé. Bonjour Eric.
Bonjour.
Philippe Godou, Nicolas Frion, Nicolas Masse et que dire de notre ami Gérard Beau, monsieur téléachat, bien sûr de TF1. Bonjour Gérard.
Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs.
Et nous allons faire bien sûr une petite visite sur le salon Delissime avec monsieur Cholanami Maxime qui était l'organisateur et puis une découverte aromatique avec Sébastien Vrignon sur lors du déplacement de cette découverte du salon Delissime. Et puis bien sûr nos chroniqueurs, Élise, la prêtresse de l'Antigaspi.
Et oui, bonjour Olivier.
Philippe Exbraya qui va nous rejoindre, qui est dit l'œil. Dominique Lega, dit Maïté.
Bonjour à tous, amis auditeurs.
Qui va peut-être aussi nous parler des dernières éditions culinaires en vogue.
Exactement, uniquement un livre, mais quel livre.
D'accord. On aura Benoît Trocard au téléphone, le nez de l'émission. Puis bien sûr, une petite pensée pour notre prince des légumes, Philippe Bourgoin, qui lui, cela coule douce, il est en vacances.
Ah, bravo.
Donc on espère qu'il n'a pas du tout de soleil là où il est, bien sûr. Et bien maintenant, il est temps de passer à table. On a mis les couverts, la table est mise. Donc je vous dis, il est temps d'ouvrir cette émission de Etiquet Talk. Bonjour à tous, bonjour tout le monde.
Bonjour. Et bonjour.
Et coucou.
Et bonjour.
Bon.
Bon Dominique.
Voilà, pile poil.
On va commencer ensemble.
Allez, on commence par. Hein
on va commencer ensemble.
Tu peux mettre mon petit jingle.
Ouais, allez, les petits jingles. Petit jingle. Alors, on a en régie deux jeunes stagiaires. Voilà. Ils font aussi. Le jingle, c'est Papa Choule. Ça serait bien de nous les mettre. Papa Choule, ça, c'est parti. Bah, mais c'est pas grave. On va commencer comme ça. Quand il arrivera.
Oui, en fond musical. Papa Choule. Oui, chers amis auditeurs, donc mon cher Olivier, hier matin, en prenant ma plume, pas celle de mon canard, alors que le jour se levait dans un brouillard 100% bordelais, je me demandais si je devais évoquer la nouvelle disposition de mon salon ou bien la multiplication des salons sur la cuisine dans notre région. Car nous disons salon, mais il y a aussi foire, fête, comme celle de Bazas, 732e édition, qui allie produits et gastronomie avec le bœuf de Bazas. Celle de Biganos, début février, avec le foie gras et notre ami Gérard Beau National, qui a passé une formidable journée. La Foire Expo de Bordeaux, le Festival de la gastronomie de Talence avec les chefs Eurotoc, et votre présence, mon cher Olivier, et aussi Gérard, le So Good de Bordeaux, la fête de l'asperge, où notre ami Éric Fagé participe souvent. Bref, je pourrais faire un catalogue façon Prévert. Vous suivez, mon cher Olivier, Prévert et Prévert, le poète. Jeu de mots.
Okay.
Donc, prenant mon courage à une main, l'autre étant en train de touiller mon café, je repensais au salon Delissime qui s'est déroulé les 7 et 8 février dernier à l'espace du lac à Bordelac. Une première dans la région pour ce type de salon qui se veut être une présentation de produits de toute la France. C'est vrai, car je n'ai pas vu de stand cannelé, de stand de lamproie, de charcuterie girondine, seulement 2-3 stands de vin du département.
Alors. Oui, enfin, c'est pas grave.
Non, c'est pas grave. Alors, pour la petite histoire, mon cher Olivier, l'espace du lac, c'est un nom qui sonne bien, qui donne de l'espace. mais qui se trouve dans la taverne bavaroise.
Ah ben c'est donc l'espace du lac.
Voilà. Hein. Alors, en circulant dans les allées, je m'attendais à voir tout d'un coup surgir sur scène la célèbre Frida Oumpapa d'Annie Cordy. Mais que nini ! Juste mon Alsacien préféré, notre chef de bande, Mister Olivier. Entre charcuterie corse, fromage de l'Aveyron, maroilles du Nord, vin du coteau du Layon, ou Layon, comme me disait mon cher Olivier, les poissons fumés de Bretagne, les vins de Rhône-Alpes, la viande de taureau de Camargue, les spécialités biscuits secs du sud de la France, et les rhums arrangés, ce salon offrait en particulier un voyage des saveurs de nos régions. Au-delà de ce salon, il faut retenir que dans notre histoire, les foires et salons autour de l'alimentation connaissent toujours un succès. Et si vous regardez bien, les stands qui marchent le mieux, ce sont ceux de produits authentiques, sans chichi, et qui sont faits avec passion. Car la passion est ce petit truc en plus qui valorise un produit, une recette. Bon, le brouillard ne se levant pas, je sortis de mon salon pour aller à l'atelier de pâtes pour déguster des boubous à la vanille, création unique sur Bordeaux. Sur ce... Amis auditeurs, que la force du canet soit avec vous.
Donc c'était ce premier salon délicime.
Exactement.
Bon, c'était bien, je trouve, pour une première, on avait des choses intéressantes quand même.
Première édition, accès très sympa, possibilité oui. de, pour 2 euros d'avoir un petit verre pour pouvoir discuter, déguster les différents vins proposés. Oui. C'était très convivial, les artisans, puisqu'il y avait beaucoup d'artisans qui présentaient leurs produits, le faisaient de manière très didactique et vraiment très sympathique.
D'accord. On essaie d'avoir l'organisateur. Bon, on n'arrive pas à ce qu'on me dit. On va essayer d'avoir. Tu vas essayer d'appeler. Alors à ce moment-là, on est en direct. Hein, Sébastien Brignon, si tu veux bien. Hein, tu vas essayer de me l'appeler.
Alors pendant que tu l'appelles, Sébastien Brignon, juste pour briefer un peu nos amis auditeurs, c'est vraiment un cas typique d'un amoureux des produits qui ne travaillait pas du tout dans ce type de produit, hein, qui avait un autre métier. Il nous expliquera ça lors de l'interview et qui s'est mis à faire ce qu'on appelle des rhums arrangés.
Voilà, et surtout, je trouvais que c'était vraiment une découverte sur le salon, parce que comme tu disais tout à l'heure dans ton explication, on a vu des choses un petit peu connues sur la région, certes pas totalement focalisées aussi sur l'Aquitaine. Bon, ça a lieu d'exister, c'est bien, mais là, vraiment une découverte intelligente et surtout agréable, parce que ce qu'on a goûté, c'était vraiment bien bon.
C'était très bon et c'était de l'authentique. Hein.
Exactement, exactement. On a notre ami L'Œil qui est arrivé, Philippe Exbraya. Bonjour Philippe.
Bonjour chers auditeurs.
Il a failli se prendre le micro dans l'œil d'ailleurs.
Bon, très bien. Passez une bonne semaine.
Très bonne.
Bon, parfait. Alors, ils essayent... non, ils n'arrivent pas à l'avoir. Mais c'est pas grave, on va enchaîner. On va enchaîner avec un première interview, je pense, de Eric Fagé.
Ah, hein,
le chef
ami
Eric Fagé. Chef de la cuisine collective du lycée Montaigne.
Du chef de cuisine du lycée Montaigne à Bordeaux et en même temps président de l'association des cuisiniers de collectivité territoriale.
D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un cuisinier de cuisine collective ?
Un cuisinier de cuisine collective, c'est un cuisinier qui cuisine aussi. C'est-à-dire, oui. On peut toujours penser que même si on fait 2000 couverts par jour... Eh bien, que c'est de la... On va l'employer le mot, mais la grosse tambouille, comme on disait dans le temps. Alors maintenant, on a totalement évolué. On est en flux tendu. C'était flux tendu, c'est-à-dire que c'est de la cuisson là, au moment, avec les moyens techniques que l'on a par rapport au four de cuisine,
oui.
qui nous permet d'envoyer à mes élèves, que ce soit de la viande, du poisson, en 7-8 minutes. Les légumes aussi qu'on peut faire dans les fours à vapeur, qu'on peut envoyer au moment, enfin pas au moment, mais qu'on lance au dernier moment. Donc cuisine de qualité, je dirais.
Très bien. On va juste reprendre l'interview ensemble. On a en ligne, je crois, l'organisateur du salon Délicime. Ouais, non, ça vient de raccrocher le téléphone. Alors, on a vraiment pas de chance, les garçons, ça a raccroché. On va continuer, alors.
Le montant de la valise.
Ouais, ça le rappelait, ouais. Voilà. Alors, donc, voilà.
Et, pour oui. Eric, dis à nos amis auditeurs, combien de repas tu sors chaque midi?
Chaque midi, c'est 1600 repas le midi et c'est 400 pour les internes le soir.
Et tout ça, c'est du fait maison?
Tout ça, c'est du fait maison. Depuis 2-3 ans, maintenant, on a éradiqué tout ce qui est produit, on va dire, semi-préparé, ce que j'entends, moi, des... style les paupiettes de veau, les brochettes orientales, enfin tous ces produits, on va dire, dérivés. On travaille en veau, porc, bœuf, volaille, et tout en frais. Que ce soit nos lasagnes sont faites maison, les...
Vous êtes combien là? Vous êtes 150?
On est le chef, trois cuisiniers et quatre agents après qui préparent les entrées, légumeries.
ça envoie quoi, comme on peut dire. Hein,
ça envoie du lourd.
Ça envoie, là, hein, ça envoie.
Donc, on voit le tout est dans l'organisation.
Ouais, je pense bien, je pense bien.
Et il faut savoir que Eric aussi est passé à faire même ses cordons bleus maison.
Donc on fait nos cordons bleus maison, on fait nos esclopinoises maison, on fait...
Le pain aussi
D'accord,
ça, j'ai trouvé un truc.
Mais on fait nos galettes des rois, on fait nos frangipanes maison, là. C'est une personne qui est pendant deux jours dessus, on ne dérange pas, ouais. Mais nos frangipanes, on s'en fait maison.
Et les élèves qui goûtent, comment est le retour, là?
Ah là, c'est tout le retour bénéfique, on va dire... C'est payant, c'est content, c'est enfin faut pas oublier non plus que c'est un lycée, donc le but il est de que tout le monde réussisse et le meilleur résultat au niveau des examens. Non mais c'est on est une bonne pièce du puzzle, c'est on a un très très bon retour de nos élèves.
D'accord. Et en termes de gaspillage, est-ce que vous avez beaucoup de gaspillage alimentaire?
Gaspillage, je suis à pratiquement pas loin du zéro gaspillage, mais du fait qu'on travaille en flux tendu et qu'on déclenche nos cuissons au dernier moment, j'ai pratiquement très peu de gaspillage.
Et oui, Eric est exemplaire en la matière.
C'est vrai, exemplaire en la matière.
On le fait souvent intervenir, ouais, pour montrer que c'est possible.
Ouais, merci Élise. Et après, donc, tu es le président de l'association des cuisiniers.
Alors, bien grand mot quand on est le président, disons qu'on est les mêmes moteurs, on va dire, avec. Avec Dominique, des activités, on va dire, avec notre réseau, on essaye d'animer, on va dire, la qualité alimentaire et d'être présent partout sur toutes les activités, de montrer notre savoir, notre patrimoine, de s'amuser, mais surtout notre patrimoine culinaire, nos produits, de notre région Aquitaine.
Une restauration collective publique de qualité. Voilà le leitmotiv.
D'accord. Est-ce qu'il y a des labels dans les cantines comme ça?
Parce que c'est labellisé. Oui, il y a un label. Il y a le label, alors c'est pas l'association d'Éric, c'est mon association, c'est l'Agorès, qui est le label de charte qualité restauration collective. D'accord. Qui est un label reconnu au niveau national, qui indique qu'une cuisine a tout mis en œuvre pour faire du fait maison. Alors, pas le fait maison dont on attend où on décongèle un produit et ça devient fait maison, c'est vraiment ce que fait Éric, c'est le produit de A à Z fait maison.
D'accord. Bon. Et puis je sais que tu es parti au salon à Lyon, au CIRA.
Donc au CIRA, représenté sur le stand de Midi-Pyrénées de la région Aquitaine. Donc mis en avant des produits label de la région Aquitaine. Et en même temps sur un stand parisien, le stand Restoco, pareil, mis en avant de notre gastronomie aquitaine. Avec notre chef, on avait fait un quatre-mains. Donc, et sur ce salon, j'ai pu croiser d'ailleurs tout l'Aquitaine. J'ai croisé Franck Descasse, Christophe Richardot, François Adamski, qui était là-bas. Donc,
tu t'es cru à la maison.
On s'est cru à la maison, chez nous. Donc, et on va enchaîner normalement le vendredi prochain, vendredi 27 février, où j'avance un peu, mais le président de région Alain Rousset va présenter la future région. Avec seront présents les trois départements et dont déjà seront présents trois deux régions. Cuisiniers de région Charente-Poitou.
Ah, d'accord.
Voilà, ça c'est le 27 février lors du salon agricole à Paris.
Grande région est en route.
La grande région est en route. Très bien. Qu'est-ce que tu as retenu du salon au CIRA pour toi, professionnel, lors de la cuisine, dans ta branche, en cuisine collective? Et puis après, la deuxième phase de cette question, c'est toi en tant que cuisinier, qu'est-ce que tu as retenu sur le salon du CIRA?
J'ai retrouvé une stabilité au niveau des produits. J'ai pas trouvé de nouveaux produits, on va dire, tel quel, mais une grosse richesse pour moi au niveau, après tout, ce qui est technique et matériel, qui me permet de faire un éventail et un audit un peu de notre outil, qui permet de voir un peu dans les nouvelles techniques, échanger aussi. On croise pas mal de monde aussi, on échange sur nos pratiques. J'ai été faire un tour justement au stand VIP des chefs. Et Philippe Baudot aussi qui représentait Eurotalk, là, où on a pu. Bon, on échange. Moi je dis gastronomie et collectivité, même but, qualité alimentaire.
D'accord. Tu prends des stagiaires dans ta cuisine?
Oui, j'ai une stagiaire là du lycée de la Morlette, justement, qui est juste derrière. Qui était une élève de troisième, qui voulait avoir un point de vue sur le métier. Il va y avoir une stagiaire qui va arriver diététique du lycée Baudrochas à Bordeaux, qui va me faire un audit sur ma restauration, c'est-à-dire qu'elle a carte blanche, et elle questionne les élèves, et voilà, bon, pas bon, trop gras, pas gras, voilà, les idées, donc... Et on va faire une expérience aussi sur le gaspillage, sur deux nouveaux modes de traitement des déchets aussi qui seront en fin de service, un éco-digesteur et aussi un appareil qui va broyer les déchets.
D'accord.
Pas mal.
Vous avez des questions pour la cantine?
Non, quelle est ta prochaine animation, Eric? Parce que tu as fait les crêpes dernièrement. C'est quoi le prochain? Tu vas faire les œufs de Pâques?
Il y avait les wraps aussi.
Ah, les wraps, oui.
Ah, il y aura, qu'est-ce qui va arriver? Le repas chinois. Il va y avoir une journée porte ouverte aussi avec tous les producteurs, on va dire, locaux, où les élèves ne mangeront pas dedans, mais dehors. Donc, il y aura un gros repas servi dehors. Ça, c'est vers le mois de mai. Il y a le buffet de fromage, il y a. J'ai en train de voir, toujours mon projet avec Bruno Oliver aussi, de voir si on peut arriver à faire un
food truck dans
un
la
food
cour.
Truck dans le lycée Montaigne.
Énorme.
Ça, c'est toujours.
Ça s'appellera le Mac Montaigne.
Mac Montaigne.
C'est pas mal.
Et un projet pour cet hiver après, de faire venir Sturia aussi au lycée Montaigne à Bordeaux pour leur faire goûter une cuillère de caviar. Le coût serait de 1 euro par cuillère, dans une petite cuillère de...
D'accord. Ah, c'est bien ça.
Il ne faut pas perdre un grain, là.
Non, mais il faut envoyer les enfants, au moins juste pour la cantine.
Non, il faut les envoyer à Montaigne, hein, c'est clair. Ça ira très bien.
Oui, très bien. Bon, je crois qu'on n'arrive pas du tout à ça raccroche avec nos invités qu'on essaie d'avoir par téléphone. Ben on va peut-être passer une première musique alors. On va se lancer la première musique. On te remercie beaucoup.
Eric, merci à vous d'avoir convié à
expliquer aux gens ce que tu fais, comment tu nourris nos têtes blondes et comme quoi c'est possible de faire à manger sans déballer et faire du fait maison à la cantine.
Oui, d'ailleurs, bon, tant qu'on a le micro, enfin, de dire aussi que cet hiver, vers le mois de novembre, sera organisée aussi la première finale régionale du Gargantua au salon Expotel à Bordeaux-Lac, où le gagnant sera qualifié pour le Gargantua au CIRA 2017.
Et le président de cette année, du jury, c'est qui?
Philippe Etchebest.
Voilà. On commence à connaître.
Je ne vois pas qui c'est.
Moi, j'ai cru comprendre Félix Ex-Brayer. Non, excusez-moi, j'ai mal compris.
Non, mais il y a une heure, il était également à la radio.
Ouais, c'est ça.
Interview. Magnifique.
Bien, on va pouvoir tout de suite avoir une pause musicale. On va écouter Mars Duke Demon et I Got You featuring. C'est parti.
Quel anglais.
Let the hand drop so right. Let the hand drop so right.
As long as
dance, I got you, baby.
Clap your hands, y'all, it's alright. Clap your hands, y'all, it's alright. Clap your hands, y'all, it's alright.
As long as I got you.
Sébastien Vignon, est-ce que c'est ça la régie? Oui, Sébastien. Allô, Sébastien. Allô, allô, allô.
Allô, la Touraine.
Ah, je crois qu'on l'a perdu à nouveau. Bon, on va vous essayez de le rappeler. On va continuer notre émission. Ben voilà, on a quelques soucis techniques.
Voilà, pendant les soucis techniques, nous on refaisait l'émission. Il y en a, ils refont le match. Nous on refait l'émission là avec notre ami Gérard Beau, avec Eric Faget, avec Philippe Ex-Brayen. On était en pleine discussion sur les tarifs scolaires, sur combien payent les élèves pour ce repas et combien les professionnels comme Eric Faget doivent chaque jour faire. Hein. Eric nous indiquait qu'il est autour de 1,80€ en achat de denrées alimentaires pour nourrir 1600 repas, c'est quand même pas cher. Hein, quand tu penses que la moyenne dans les restaurants du midi, on est autour de entre 10 et 13 euros pour juste manger le plat principal, le dessert. Et parfois, il y a le café. C'est plus compliqué.
Comme quoi, c'est vraiment possible.
C'est faisable.
C'est vraiment très, très faisable. Après, c'est le talent du cuisinier quand même, Eric.
Alors, c'est le talent du cuisinier, c'est ne pas avoir de pertes. C'est-à-dire, il faut être au plus juste des repas servis. Si on n'a pas de pertes, on récupère d'autant plus, on va dire, pas de gaspillage, pas de déchets, pas de pertes. Donc, c'est réinjecté de suite dans le cri de nourriture qui nous permet là, de faire venir un crépier, de faire des huîtres aussi, puisqu'on fait des huîtres au moment de Noël. Donc les huîtres, c'est pas grand chose, ça me coûte 1000 euros, on va dire 180 douzaines, donc fait par un marieur.
Et les coquilles sont consignées. Hein.
Et les enfants mangent. Donc,
les enfants mangent, ça c'est important. Ouais.
Au niveau des huîtres, si je compte, si je calcule bien, ça fait 6 huîtres par personne, 1600, donc ça fait 6 fois 1600 à ouvrir. Non.
Ah mais ça c'est le marieur qui vient le matin, ils sont deux. Faut les voir, faudrait faire venir un champion du monde, tiens, donc un ami.
Ah, notre ami Marcel Lezoil, hein, là ils font avec mon Gérard Beau, oui, ça serait un coup très très rigolo à faire.
Ouais, ça serait pas mal, lancer le défi oui. Et on devrait suivre ça.
Marcel, si tu nous entends.
Voilà, on nous fait signer la régie que oui, alors. Non, ça coupe à chaque fois. Alors, on a quelques soucis avec nos téléphones aujourd'hui. Ben, on va faire ça autrement. C'est pas très grave. Ouais, on va essayer de.
Est-ce que tu veux que je fasse. Tu fais comme si tu faisais l'interview et je fais Sébastien.
Non, on va essayer de la voir quand même. Ah bon. On va essayer de la voir. Bon, ben, très bien. On va en profiter aussi pour interviewer peut-être Gérard Beau.
Ah oui, tu me le laisses.
Je te le laisse.
Ah, tu me le laisses.
Bon, ben, il est à toi.
Alors, Gérard Beau, qui êtes-vous?
Qui je suis? Oh là là, une personne toute simple, ancien élève de l'école hôtelière de Besançon, donc franc-comtois d'origine, un petit village à la frontière suisse, du côté de Belfort-Montbéliard, donc dans l'est de la France. Et puis ensuite, j'ai passé des concours et je suis devenu ce que l'on appelle, et j'aime pas le terme, mais c'est comme ça qu'on nous appelait, expert auprès du Fonds européen de développement. Donc j'ai été enseignant pendant 18 ans, donc en école hôtelière, et j'ai ouvert l'école hôtelière de l'île d'Aruba, en Amérique du Sud, pendant 4 ans.
Ouais. Il a bien choisi l'école hôtelière. Il n'a pas pris n'importe quoi, il n'est pas allé sur le plateau des Langres, où il fait le plus froid, quoi.
Donc l'île d'Aruba pendant 4 ans, donc à côté de Curaçao, dans le golfe de Maracaibo.
Ensuite, Curaçao bleu.
Curaçao bleu, oui. Un zeste de Curaçao bleu. Ensuite, j'ai été muté 2 ans à l'école hôtelière du Costa Rica. Ensuite, j'ai été muté à l'île Maurice pendant 4 ans, où on a dû fabriquer l'île Maurice.
Et il a eu de la chance parce que Olivier, lui, il est allé chez Maurice à Lille.
Oui, d'accord, c'est ça. C'est différent, ouais. Sa valise et son maroilles. Et puis ensuite, on a créé la première école hôtelière des États d'Afrique de l'Ouest, de la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest.
Oui.
Donc je suis resté 8 ans en poste à la présidence de la République du Togo, en fait, voilà. Et puis ensuite, j'ai créé mon restaurant parce que j'en avais un petit peu. Puis les enfants grandissaient, donc c'était pas toujours évident de vivre outre-mer. Donc on a vécu dans des pays merveilleux.
accueillons, on a toujours eu un accueil remarquable, et je dois dire que l'Outre-mer me manque, parce que ce sont des gens chargés d'émotions, chargés de tout. Nous, on y va avec nos traditions, nos valeurs, mais on se prend une bonne claque en arrivant dans ces zones géographiques, parce que ce sont des gens merveilleux. Et j'ai vécu en toute quiétude dans tous ces pays, avec une famille, avec des enfants qui sont nés Outre-mer. Mon premier enfant est né à l'île Maurice, le deuxième est né au Togo, et je dois dire que je me sentais en parfaite sécurité et symbiose avec cette population qui nous accueillait avec beaucoup de chaleur. Ensuite, j'ai créé à Bordeaux en 87 le restaurant Bohémien.
Ah, le Bohémien.
Et puis.
Ah bon, c'est pas toi qui as créé Goémio ?
Non, non.
Jeu de mots.
Et non pas Godet Michel non plus.
Non, non.
Bip. Nous sommes quand même à une grandeur d'écoute, merci.
Oui, oui, pointe, pointe.
Marché porteur aussi. Ouais, ouais,
ouais. Marché porteur, oui, c'est vrai que dans les quartiers, il y avait des sex shops.
Et nous allons avoir Gérard qui nous fait 50 nuances de fromage.
Voilà. Ah oui. Voilà.
Donc le premier restaurant de fromage de Bordeaux qu'on a tenu pendant 25 ans, mais je suis tombé dans la marmite de la formation, donc je continue de donner des cours. Je vais tous les ans au royaume de Bahreïn, à Dubaï, à Oman. Je suis le seul juge européen des championnats du monde de cuisine chinoise en Chine tous les ans. Et depuis 12 ans maintenant, j'anime donc l'émission télé-shopping de tous les matins avec Marie-Ange Nardi. J'ai d'abord travaillé 6 ans avec Laurent Cabrol. Et maintenant, depuis 6 ans, avec Marie-Ange Nardi et Alexandre Devoise. Voilà, vous savez tout, je suis de sexe masculin. J'habite sur la rive droite, en plus. J'habite à Tresse.
À Tresse. Maintenant, Gérard, c'est un gars du coin.
Ouais, ça, c'est ouais.
Alors, moi, j'adore la rive droite.
Alors, chers amis auditeurs...
C'est normal. C'est normal. Ouais. Il a découvert Bordeaux avant que tout le monde découvre que Bordeaux, c'était la destination de vacances pour l'année 2015. Tu sais qu'on est passé Bordeaux, la destination européenne... il l'a découvert avant.
Quand je suis arrivé, c'était une ville manchote qui n'avait qu'une rive, qui était la rive gauche. Et puis, tout doucement, les Bordelais se sont habitués à avoir un deuxième bras. Voilà. Ils avaient oublié qu'il y avait un premier pont, ensuite un deuxième, un troisième, et puis maintenant un quatrième.
Voilà.
Donc, on se croirait au mois de mai, ici. Il y a des ponts partout.
Il y a des ponts partout. Partout. Ouais, pas les aqueducs.
Et je dois dire que Bordeaux est une ville absolument magnifique. Et moi, qui suis franc-comtois d'origine, nous avons été accueillis de façon admirable. Et je suis très fier d'être Bordelais d'adoption. Et j'habite sur la rive droite parce que j'aime ce côté vallonné.
Voilà. Bon, Gérard, dernièrement, tu étais à Biganos, début du mois de février.
Oui.
Pour le premier salon du foie gras, je crois.
Le premier salon du gras.
Du gras, voilà.
Du gras, en règle
Alors,
générale.
Qu'est-ce qui s'est passé sur cette
il
journée
Il s'est passé qu'en 45 minutes, eh bien, il s'est vendu des centaines de kilos de paletots, de tout ce qui permet de faire le gras.
45 minutes.
En 45 minutes. Oh. Les producteurs et les revendeurs qui étaient présents ont été dévalisés. Ce qui prouve bien que dans nos régions, il y a encore des personnes intéressées par le terroir et un truc qui n'existait pas puisque ça a été fabriqué, je dirais, par la mairie de Biganos. Et je voulais saluer le maire, monsieur Lafont, qui a eu cette initiative intelligente.
Sous la halle de Biganos.
Exactement, sous la halle de Biganos. Et on s'est vraiment éclaté. Beaucoup de personnes sont venues participer à ce marché pour acheter, pour échanger des recettes. Alors, il y avait des produits frais, bien entendu. Il y avait des produits en semi-conserve. Il y avait des produits dérivés du gras, bien entendu, que ce soit des terrines, des pâtés, et puis bien entendu des foie gras entiers. Quand je parle de pâté, pour moi, c'est des mélanges. Mais quand je parle du foie gras, c'est toujours le foie entier, mi-cuit, et non pas des reconstitués avec des morceaux de dents.
De l'authentique.
Bien sûr, du foie gras entier. Donc il y avait vraiment un bel échange. Et puis j'ai vécu un moment très important, puisqu'il y a eu un concours à 14h après le déjeuner de cris du canard.
Ah.
Et alors là,
j'ai vu.
Ça, c'est la canne en chaleur.
Ah, ma galinette, je me disais bien aussi.
Donc, il y a eu le cri du canard, mâle et femelle. Les hommes et les femmes se sont mis à l'œuvre.
Se sont mélangés,
Et on a eu des cris assez exceptionnels. Et j'ai découvert. Vous savez, dans le patrimoine, aujourd'hui, on s'aperçoit que la France n'est plus un pays, mais une région au sein de l'Europe. On est la partie la plus à l'ouest, nous, puisqu'après, on tape sur l'Atlantique et il faut nager pour aller ailleurs. Et je me rends compte d'une chose, c'est que nos traditions, nos valeurs bien franco-françaises nous font chaud au cœur. Et que des villages, que des villes comme Biganos, comme Lacanau, comme Arcachon, comme Bordeaux, peu importe, comme Bazas, comme Langon, qui, depuis des années, se battent pour faire et remettre en avant des traditions. La tradition a du bon. On est dans la transmission.